Ah, les vacances, période où l'on a du temps. N'est-ce pas merveilleux quand on sait qu'on court sans cesse derrière tout le reste de l'année? Puis généralement, quand on n'a pas le temps, ben, c'est Dieu qui passe à la trappe. Pas le temps de prier, pas le temps de lire la Bible. Alors, quelle période bénie que celle des vacances! Pouvoir louer le Seigneur au milieu d'une belle randonnée sur les Trois Becs. Pouvoir méditer la Bible, allongé au soleil, sur les galets au bord de la Drôme. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon, j'avoue que c'est un peu utopique. Je lance des perches, comme on dit. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Ce temps de repos pourrait être l'occasion de mettre en place de bonnes habitudes, si elles n'existent pas encore. Et quoi de mieux que de commencer, quoi de mieux que de méditer, de prendre l'habitude de se nourrir de la parole de Dieu quotidiennement. Voilà une bonne habitude à prendre et qui nous serait d'une grande aide tout au long de l'année. Alors je vous propose donc des devoirs de vacances, pardonnez-moi, mais quelques outils pour méditer la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez, mais un passage de l'Écriture, souvent on en retire un sens, mais en fait, généralement, il a beaucoup, beaucoup de sens. Et on en retire généralement au moins deux. C'est saint Thomas d'Aquin qui avait distingué deux sens que l'on pouvait retirer d'une méditation de la parole de Dieu. D'abord, le sens littéral, ce qu'on lit, voilà, le texte, texto. Et puis le sens spirituel, voilà, ce qui est caché, ce que le Seigneur veut nous dire derrière ce que l'on lit. Et puis même, on peut aller plus loin dans le sens spirituel, donc on peut le diviser encore en trois approches. Le sens allégorique, ce qu'il faut croire, le sens moral, ce qu'il nous est demandé de faire, et puis le sens eschatologique, ce qui est à espérer. Bon, pardonnez-moi pour les gros mots, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais on va regarder ça ensemble, on va prendre l'évangile de ce jour pour comprendre un peu comment ça se passe. Alors, au sens littéral, que voyons-nous? Nous voyons la puissance de Jésus qui marche sur les eaux et maîtrise les éléments. Et nous voyons aussi le fait que Jésus donne à Saint-Pierre son pouvoir de marcher sur les eaux. Voilà, ça c'est ce que nous lisons, c'est le texte. Passons au deuxième sens, le sens allégorique. Qu'est-ce que ça m'apprend tout ça? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Eh bien, nous contemplons Jésus qui, tel un nouveau Moïse, descend de la montagne et traverse la mer, qui est considérée comme le royaume de la mort, pour venir au secours de son peuple, représenté par les disciples. Mais bien plus que Moïse, Jésus est bien plus grand que Moïse, bien plus grand qu'un prophète, parce qu'il prononce pour lui-même le nom divin. Alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué parce qu'il est bien caché, c'est vrai. Quand Jésus arrive auprès de ses disciples et qu'il dit « Confiance, c'est moi », eh bien c'est chargé de signification. Pourquoi? Parce que dans le texte originel, le texte grec, « c'est moi », en fait ça se dit « ego eimi ». Et cette expression, on la retrouve dans d'autres passages des évangiles, notamment chez saint Jean, lorsqu'il dit par exemple « Avant Abraham, moi, je suis. Ego eimi, je suis. » Et pour ceux qui connaissent un peu plus la Bible, eh bien, vous vous souviendrez que c'est de cette manière que Dieu s'est présenté à Moïse, lorsqu'il lui demande « Comment, qu'est-ce que je dirais à ton peuple, comment tu t'appelles ?» Tu leur diras que moi, je suis. C'est donc le Seigneur qui parle. Et Jésus manifeste ainsi qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Passons au troisième sens, le sens moral. Voilà, on a lu le texte, on a essayé de chercher qu'est-ce que ça m'enseignait. Maintenant, qu'est-ce que ça m'invite à faire? Voilà. À quoi ça m'appelle? Nous sommes appelés alors à imiter Pierre. Généralement, les disciples, les apôtres, c'est nous dans les évangiles. Pierre, qui, au cœur de la tempête, continue de s'adresser au Christ et ne veut jamais être séparé de lui. Comme lui, nous sommes invités à garder le regard fixé sur lui et à lui faire confiance, particulièrement, bien sûr, dans les moments les plus difficiles. Si au contraire, je lâche les yeux, comme le fait Pierre lui-même, je lâche les yeux de Jésus et que je commence à regarder ce qui ne va pas, la force du vent, eh bien, je prendrai peur et m'enfoncerai dans les eaux. Heureusement, je peux toujours m'en sortir en criant « Seigneur, sauve-moi ». Enfin, quatrième sens, le sens eschatologique, voilà celui qui m'invite à regarder plus loin, à entrer dans l'espérance. Et là, nous sommes réconfortés par l'intervention de Jésus qui ne laisse pas la barque des apôtres couler et les conduit à bon port. Mais l'espérance est bien plus qu'un simple retour au calme après la tempête. Nous voyons dans cette barque la barque de l'Église, assaillie par les puissances de la mort. Mais le Christ nous l'a promis et il nous invite à espérer selon quoi les puissances de la mort ne l'emporteraient jamais sur son Église. Voilà, chers frères et sœurs, une petite méthode pour nous aider à méditer la parole de Dieu, à nous en nourrir. Si cela vous a donné envie de la lire davantage, tant mieux. Vous pouvez même faire des jeux en famille. Voilà. Qui arrivera à trouver le sens allégorique en premier ou le sens eschatologique? Voilà, je vous laisse à votre imagination pour trouver de quoi méditer la parole de manière ludique dans votre quotidien. Amen.